Bien, vous le savez donc, nous avons tous une responsabilité collective de porter une attention qui soit continue à la valorisation de notre patrimoine d'exception, patrimoine qui s'impose aujourd'hui comme un centre culturel majeur au cœur de l'Occitanie. Vous avez pu voir tout à l'heure que la cathédrale Sainte-Cécile est le troisième site le plus visité d'Occitanie, le pont du Gard et le viaduc de Millau. Voilà. Non, après, avant Carcassonne. Comme quoi. Et c'est, le classement ne vient pas de nous, le classement vient de la région, madame. Donc là, vraiment, on est totalement d'une grande impartialité. Nous sommes donc les garants de ce patrimoine. Nous avons le devoir de le transmettre aux générations futures. Je crois que nous en sommes tous parfaitement convaincus. Vous savez également que cette inscription par l'UNESCO a attiré le regard sur l'albigeois d'un certain nombre de mécènes. Comme ça a pu être le cas, on en a vu quelques images pour la restauration du cœur des chanoines à la cathédrale Sainte-Cécile. Je me permets de vous rappeler que grâce à Bertrand Duvigneau, le WMF nous a accordé un mécénat d'1,2 million d'euros. C'est quelque chose qui est absolument considérable. J'espère que tout le monde en a bien conscience. Le mécénat est un axe que nous souhaitons pouvoir privilégier, qui est indispensable à la valorisation de notre patrimoine, a fortiori dans les conditions que nous connaissons de désengagement de l'État dans l'aide aux collectivités locales ou dans les éléments de patrimoine, avec une petite parenthèse néanmoins à ce stade pour indiquer, et je pense que le père Paul acquiescera, l'État participe de manière de plus en plus importante à la réfection, à la restauration, à la mise en sécurité de la cathédrale Sainte-Cécile. Et je crois que autant on peut de temps en temps porter des messages un petit peu piquants à destination de ceux qu'on considère ne pas suffisamment faire le travail pour nous, autant il me semble que Sainte-Cécile est actuellement couvée, presque trop, elle a presque trop d'échafaudages, et en même temps, c'est sûrement parce qu'elle en a besoin, donc je crois que c'est une chance aussi. Donc les travaux sont toujours trop longs, c'est comme les travaux dans les rues, mais quand ils sont nécessaires, il faut savoir accepter qu'on les fasse. Donc merci pour votre patience avec les échafaudages qu'il peut y avoir jusqu'à présent à l'extérieur et maintenant à l'intérieur de Sainte-Cécile. Je vous propose donc plus sérieusement c'était un sujet très sérieux, mais je vous propose donc maintenant de laisser la parole à celui dont la loi sur le mécénat porte justement le nom, Monsieur Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture et de la Communication, président de la mission Nice Promenade des Anglais.
Écoutez, Madame le maire, tout d'abord, je vous remercie d'avoir la bonté d'accueillir un candidat à la candidature au milieu de représentants de sites déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Quand l'ancien maire de Nice, puisqu'il n'est plus désormais maire de Nice, Christian Estrosi, il est maintenant président de la métropole et président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, m'a demandé, il y a environ 3 ans, de prendre en charge la promotion d'une candidature de Nice sur la liste du patrimoine mondial. Je lui ai tout d'abord demandé d'y réfléchir un peu pour examiner la question de savoir si la chose était opportune et si elle était possible. Alors je me suis tourné vers l'association des sites du patrimoine, l'association française des sites du patrimoine. On m'a dit, écoutez, vous auriez tout d'abord intérêt à interroger quelques sites qui ont réalisé leur candidature et fait aboutir leur candidature de façon tout particulièrement magistrale. Alors l'association m'a orienté vers Le Havre, c'est un dossier que je connaissais un peu parce que comme ministre j'avais été porteur de cette candidature du Havre. On m'a recommandé également d'interroger le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Là aussi, c'est une réalité que je connaissais à peu près finement. J'avais été à l'origine de la création du Louvre-Lens. Et enfin, et peut-être d'abord d'ailleurs, on m'a dit il faut absolument que vous ayez un contact avec Albi. Albi a réussi un prodige avec beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup d'intelligence, celui d'imposer à la communauté internationale un concept extrêmement difficile à comprendre au premier abord, pour en tout cas quelqu'un qui ne relève pas spontanément de notre culture, de la culture occidentale, celui de cité épiscopale. Alors j'ai appelé, Madame le maire, j'ai appelé votre prédécesseur, qui m'a tout d'abord très très aimablement, ça ne vous étonnera pas, répondu, et m'a aussitôt conseillé d'avoir un contact très rapide avec Marie-Ève Cortès. Et c'est ainsi qu'a commencé finalement mon compagnonnage avec la ville d'Albi. Non pas que j'ignorais cette ville, j'y étais souvent venu. La dernière fois, c'était pour remettre la Légion d'honneur à la directrice du musée Toulouse-Lautrec, Madame De Vinck, mais je n'avais jamais finalement eu la possibilité d'observer si finement, si précisément le travail qui s'était fait sur le thème du patrimoine mondial dans cette ville, ni la façon tout à fait impressionnante dont Albi, une fois acquis le label, une fois acquise l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, avait géré les conséquences et toutes les conséquences de cette inscription. Alors ce soir, Madame le maire, Mesdames, Messieurs, je dois vous dire que je vais employer un mot un peu d'un autre temps, un mot des années 50 et 60, je suis épaté. Je suis épaté tout d'abord, comme à chaque fois que je viens à Albi, par la beauté de cette ville, mais également par sa vivacité. On est très frappé à Albi de voir qu'il ne s'agit pas simplement d'un magnifique décor monumental, mais d'un décor un peu mort. La ville est une ville vivante, une ville tournée également vers l'avenir. Et d'ailleurs, le choix de confier la réalisation de ce théâtre à l'un des grands architectes français contemporains, Dominique Perrault, en atteste. Donc épaté par la beauté de la ville, par sa vivacité, également épaté une nouvelle fois par l'intelligence de votre démarche, par l'intelligence de la gestion du label patrimoine mondial, et surtout, et ça avait été d'ailleurs la deuxième recommandation de l'Association française des biens du patrimoine mondial, surtout par la façon extrêmement convaincue avec laquelle vous avez tout fait pour que cette inscription ne soit pas seulement l'affaire de ceux qui l'avaient portée, quelques élus, quelques spécialistes, quelques savants, quelques experts, mais que cette affaire devienne vraiment un objet d'attention pour toute la population du territoire. Et je me souviens en effet que Yves Dauge, qui préside l'Association française des biens du patrimoine mondial, m'avait dit « Mais surtout, veillez bien à ce que ce ne soit pas juste l'affaire du maire et de vous-même, mais que, ça, je reviens à Nice naturellement, mais que cette affaire devienne l'affaire de tous les Niçois, que le corps social, que le corps économique, que le corps culturel s'en empare et soit convaincu d'ailleurs par l'opportunité de solliciter une telle inscription. En tout cas, Albi, je n'avais pas encore le bonheur de connaître le bon aboutissement de la candidature de la Champagne, mais Albi a constitué pour moi un véritable modèle. J'ouvre une parenthèse également, Madame le maire, et je reprends un peu ma casquette d'ancien ministre de la Culture pour vous dire qu'une fois de plus, je suis impressionné par le travail que font les territoires, que font les collectivités locales au service du développement, au service des populations, au service de la culture. Je ne suis pas rentré dans le détail, naturellement, de toute l'offre culturelle d'un territoire comme celui de l'Albigeois, mais je vois bien, je pressens, je devine, on m'a dit, je constate que le travail qui se fait ici est un travail généreux, efficace et suscitant l'adhésion de la population, l'adhésion des citoyens. Le taux de fréquentation des spectacles de votre remarquable scène nationale est la démonstration et le témoignage de cet enracinement de l'action culturelle. La ville d'Albi et ses partenaires se sont engagés à fond dans l'action culturelle, en faveur du patrimoine, en faveur des musées, en faveur du spectacle vivant, en faveur de la lecture publique. Et j'étais très heureux de voir d'ailleurs que dans le film que vous nous avez présenté, apparaissent l'un des grands chefs-d'œuvre conservés par la bibliothèque d'Albi, la Mappa Mundi, que chacun considère et que chacun doit considérer comme l'un des livres les plus importants du premier millénaire dans notre pays. Alors je vais quand même vous dire deux mots de la candidature de Nice. Tout d'abord pour vous indiquer que lorsque donc M. Estrosi m'avait demandé de m'en occuper, dans un premier temps, il m'avait dit « nous allons porter la candidature de la promenade des Anglais ». Alors certes, la promenade des Anglais est un lieu magnifique, universellement connu, mais très rapidement, je me suis rendu compte que limiter la candidature de Nice à ce seul bord de mer, c'était un peu réducteur, et que Nice, en fait, avait une autre richesse patrimoniale, c'était la richesse constituée par tout le tissu urbain, par tout le tissu, par tout le patrimoine architectural de la ville nouvelle qui est apparue à côté de la vieille ville, de la ville médiévale, qui est apparue à partir du milieu du XVIIIe siècle pour accueillir à Nice la résidence de ceux qui venaient y passer l'hiver, puisque le premier tourisme de Nice a été un tourisme hivernal, un tourisme climatique. On n'allait pas à Nice pour se baigner, mais pour y respirer la douceur de l'air en hiver. Ce tourisme est extrêmement précoce. Les premiers Anglais qui viennent séjourner à Nice y apparaissent dans les années 1760. Et dès cette date-là, paraissent les premiers guides en langue anglaise d'abord, puis en langue allemande d'ailleurs, pour recommander aux classes aisées de l'Europe du Nord, celles qui avaient des loisirs et un peu de richesse, de passer l'hiver à Nice plutôt que de le passer dans les brumes du nord de notre continent. Ce qui est remarquable, c'est que de 1760 à 1960, la seule activité de Nice, c'est le tourisme. Il n'y a aucune autre activité industrielle, commerciale majeure. Il y a naturellement un petit commerce lié à la production de vin, à la production d'huile, mais tout ça n'est destiné qu'à la consommation locale. La seule activité massive, celle qui fait passer la ville de 15 000 habitants en 1800 à 150 000 habitants en 1900, c'est le tourisme. Et le tourisme a généré un mode d'organisation de la ville, une organisation de l'espace avec des promenades, la promenade des Anglais étant le prototype même de ce lieu de promenade, puisque le tourisme climatique a besoin de lieux pour prendre l'air. Et on prend l'air en allant promener, la promenade étant d'ailleurs également un rituel social. L'un des premiers lieux sur lequel s'est fixée cette activité de promenade, ce sont tout simplement les anciens remparts de la ville qui, une fois qu'ils ont été démolis, ont été transformés en promenade suspendue. Cette promenade existe toujours, on l'appelle la galerie des Ponchettes. Elle se fonde sur l'emplacement de la muraille ancienne de la ville, muraille détruite à partir du moment où le besoin de fortification s'était amoindri, comme d'ailleurs dans beaucoup de villes de France, comme ici à Albi, on le voit bien sur les lys. Et au lieu tout simplement d'araser totalement la muraille, on en conserve la base et on la couronne d'une promenade suspendue qui permet de voir la mer. Alors, voir la mer, ça semble quelque chose de tout à fait naturel, mais n'oublions pas que le besoin de contempler la mer, le besoin d'admirer la mer, est un besoin relativement récent. Il apparaît en effet au même moment, au XVIIIe siècle, à ce moment de l'invention du rivage, pour reprendre la belle expression d'un grand historien, justement, de la sensibilité et du goût, Alain Corbin. Alors, cette première promenade accomplie, il y en aura naturellement beaucoup d'autres, dont la promenade des Anglais. Je vais vous montrer une image de la promenade des Anglais vers 1840. C'est le début de la colonisation du rivage à l'initiative de la colonie anglaise de Nice. Cette première promenade, ce chemin empierré a été réalisé à l'initiative de quelques notables anglais qui avaient envie de se promener le long de la mer de façon plus confortable. C'est également à ce moment-là qu'on voit apparaître les premiers hôtels. Alors, ce patrimoine d'hôtels à Nice est tout à fait impressionnant et progressivement occupera la quasi-totalité du territoire de la plaine niçoise et des collines niçoises. Vous voyez ici l'hôtel Regina Palace, dont la plus illustre hôte a été la reine Victoria. Mais d'autres hôtels, naturellement, enrichissent également ce patrimoine. Ici, vous voyez un hôtel qui s'appelle un hôtel du début du XXe siècle, l'hôtel Majestic. Beaucoup de ces hôtels, d'ailleurs, ont été désaffectés de leur fonction d'hôtel et sont aujourd'hui transformés en résidences d'appartements. Je vais vous montrer une petite carte maintenant qui indique quels sont les hôtels antérieurs à 1935 qui sont toujours conservés de nos jours, et on voit très très bien la très grande densité de ce patrimoine immobilier qui atteste de la puissance de la vocation touristique de la ville. La ligne de chemin de fer est inaugurée en 1863 et vous voyez d'ailleurs qu'autour de la gare il y a une toute particulière concentration d'hôtels. Là aussi, il s'agit d'un effet topographique assez courant dans les villes. Le chemin de fer n'arrive à Nice qu'en 1863 et naturellement, il est la conséquence du rattachement de Nice à la France, puisque vous le savez, Nice et la Savoie ont été rattachés à la France que finalement très tardivement en 1860, à la faveur justement du soutien que la France a apporté à la conquête par l'Italie de son unité. Alors, autre patrimoine architectural qui est tout particulièrement riche à Nice, c'est le patrimoine des édifices du culte non catholique, puisque cette affluence touristique à Nice est très cosmopolite. Elle est composée très souvent de personnes qui, par leur origine, n'appartiennent pas à l'Église catholique, au culte catholique. Il y a des orthodoxes, il y a à Nice une cathédrale russe, une église anglicane, une église épiscopalienne, des églises luthériennes, une église vaudoise, des synagogues. Et pour les catholiques, on construit une église autre que les églises de Nice traditionnelles. Les églises de Nice, du vieux Nice, sont des églises baroques. Mais donc pour les gens venus du Nord qui sont catholiques, on construit également, au même titre qu'on construit une cathédrale orthodoxe, on construit une église de style gothique totalement incongrue naturellement dans le paysage niçois. Alors ce qui caractérise également, et c'est là que nous allons, c'est sur cet argument que nous allons fonder la valeur, la démonstration de la valeur universelle exemplaire de Nice, c'est que nous avons affaire là à un phénomène urbain. La cité épiscopale est la conséquence d'un pouvoir spirituel. La ville du Havre est la conséquence de la reconstruction, donc de la guerre et de la reconstruction. La Champagne, ou d'ailleurs la Bourgogne, est un témoignage sur un certain mode d'organisation du territoire et le développement d'un certain type d'activité. Nous allons tenter de démontrer qu'on a là affaire un bien qui atteste de l'un des grands phénomènes qui a marqué l'histoire des sociétés contemporaines, l'avènement du tourisme. Le tourisme, dont vous réclamez tous les effets pour vos territoires. Le tourisme, c'est quelque chose de relativement récent. Depuis longtemps, on voyage, mais on voyageait ou pour faire la guerre, ou pour faire du commerce, ou pour étudier éventuellement, ou pour pratiquer un acte de piété à travers les pèlerinages. Mais c'est à partir du XVIIIe siècle, le grand tour anglais en Italie et sur les rives de la Méditerranée, qu'on va voyager pour une seule raison, pour le bonheur, pour le tourisme, pour la jouissance de l'existence. Et Nice est en quelque sorte le témoignage de l'éclosion de ce grand phénomène de civilisation. Alors une autre des caractéristiques de ce tissu urbain qui se répand sur un territoire assez vaste, et je crois que nous serons amenés, pour ne pas rendre la chose trop compliquée, à circonscrire un tout petit peu le périmètre de l'inscription par rapport aux premières projections qu'on avait pu faire. Une autre caractéristique de ce patrimoine, c'est qu'il a suscité une immense littérature que beaucoup de très très grands écrivains ont écrit à Nice ou ont écrit sur Nice. Actuellement, plusieurs grands écrivains français se sont tout particulièrement intéressés à Nice et en sont d'ailleurs originaires, Le Clésio et Patrick Modiano. Beaucoup de très très grands artistes ont fait de Nice leur demeure et ils ont produit d'ailleurs l'essentiel de leurs œuvres. Je pense à Henri Matisse, par exemple, qui à Nice a inventé les papiers découpés, qui sont une véritable révolution dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Mais il y a Matisse, mais beaucoup d'autres artistes également. Par exemple, un grand artiste allemand comme Max Beckmann, qui a, en 1947, revenant de son exil aux États-Unis, puisqu'il avait quitté l'Europe étant considéré par les nazis comme un artiste dégénéré. Il revient en Europe en 1946 et séjourne à Nice en 1947 et réalise cette vue de la promenade des Anglais prise depuis le balcon d'un hôtel, sans doute. C'est une œuvre magnifique qui se trouve dans un musée allemand, au Folkwangmuseum d'Essen. Voilà donc voilà un peu l'histoire de cette candidature. Alors, Madame le maire, messieurs, je suis en train d'éprouver quelque chose, c'est que c'est très compliqué. Alors d'emblée, on vous dit, moi qui aime les choses rapides, on vous dit, ah, ça prend au moins 10 ans, peut-être en 7 ans, vous pourrez y parvenir. Moi qui aime toujours que les choses adviennent le lendemain matin, je considère cet avertissement avec beaucoup d'effroi, mais je crois que je mesure aujourd'hui ce qu'il y a d'exaltant à travailler un tel projet. Vous en avez fait l'expérience, il y a d'exaltant. Et je pense que le jour où on vous annonce, où la délibération de l'UNESCO vous annonce que vous êtes inscrit sur la liste du patrimoine mondial, écoutez, vous devez vous en sentir tout particulièrement heureux. Alors ensuite, sur les conséquences de l'inscription, paradoxalement, à Nice, la question du tourisme se pose en d'autres termes que, par exemple, à Albi ou en Champagne, puisque la fréquentation touristique de Nice est déjà considérable. Nice a la chance de disposer d'un aéroport international d'où on peut partir à peu près partout dans le monde et qui dessert et qui voit arriver des gens venus du monde entier. Cet aéroport se trouve d'ailleurs tout à fait au bout de la promenade des Anglais. C'est la seule ville en France où l'aéroport est au bout de la rue. La fréquentation touristique est massive et donc il ne s'agit pas tant de l'amplifier, mais de faire en sorte que ce tourisme soit un tourisme de plus grande qualité. Aujourd'hui, le tourisme à Nice se focalise essentiellement sur le bord de mer, un peu dans la vieille ville, autour du marché, le cours Saleya. Il ne manifeste pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de curiosité pour la totalité de la ville. Et ce que nous souhaitons faire, c'est que demain, le même nombre de touristes, et peut-être un peu plus, et les Niçois en tout premier lieu d'ailleurs, se rendent compte que la ville a un patrimoine considérable, que ce patrimoine mérite d'être connu, qu'il mérite d'être protégé, alors que plusieurs monuments majeurs ont au cours du XXe siècle disparu du fait de l'insouciance ou parfois du mépris des hommes et je dois bien le dire aussi parfois des élus ou de leur ignorance d'ailleurs. Ce patrimoine, il faut le protéger, il faut l'étudier, il faut le connaître et il faut le partager. Vous avez parlé, monsieur, de la réconciliation. La réconciliation est une forme de partage. C'est un partage de l'avenir. Quand il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas d'avenir partagé. Donc, quand on est réconcilié et qu'on regarde vers le même horizon, on est en mesure de réellement partager les choses. Alors, juste deux mots pour vous dire que, naturellement, ce patrimoine, vous le savez, a été cruellement frappé le 14 juillet dernier. Alors, ce n'est pas un argument, naturellement, en faveur ou en défaveur d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial, mais je crois que le caractère universel de l'émotion suscitée par l'attentat de Nice montre bien que cette ville, sa légende, sa réputation, son image, son patrimoine sont réellement et déjà, d'une certaine façon, au cœur de l'humanité tout entière. Donc j'ai bon espoir qu'on arrive également à conquérir cette inscription sur la liste du patrimoine mondial. Mais Madame le maire, je tiens à vous le redire, Albi reste pour moi un modèle tout particulièrement cher, et j'espère que votre exemple, vos conseils, vos recommandations nous aideront à cheminer dans notre candidature rapidement, efficacement et avec succès. Mesdames, messieurs, je vous remercie.